Radio Okapi. Le journal, présenté par Patience Ngalula Mbombo.
Au sommaire de cette édition d'information, début hier lundi du couvre-feu dans certains coins de la province du Haut-Katanga. L'ONG Justicias Bell salue l'effectivité de cette opération, mais estime qu'il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour qu'elle produise des résultats escomptés. Son président national est à suivre dans ce journal. L'ASBEL Dignité Humaine met en place des stratégies pour le lancement du projet Tofongola Miso. Entendez, ouvrons les yeux. Selon la coordonnatrice de cette structure, ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption, les blanchiments des capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive, ainsi que la circulation des flux financiers illicites. Notre invité est Arsène Mouaka. Il est député national élu de la ville de Beni au Nord Kivu. En vacances parlementaires dans la région, il s'exprime sur la recrudescence des attaques de rebelles des ZDF depuis quelques semaines dans la région. Bonjour à tous. Ce journal part du Haut-Katanga. C'est ce lundi qu'a commencé les couvre-feux dans certains coins de la province. Cette mesure est saluée par plusieurs louchois qui déplorent le regain de la criminalité dans les grandes villes de cette province. Justicia Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme, à travers un communiqué de presse rendu public, apporte aussi sa contribution pour la réussite de cette opération. Timothée Mbuya, son président national, explique. Il est au micro de Jean Gandou.
Justicias Bell salue l'entrée effective du couvre-feu, mais estime que pour que ce couvre-feu devienne efficace, il faudrait qu'il y ait quelques mesures d'accompagnement. Parmi ces mesures d'accompagnement, Justicia propose que le couvre-feu puisse avoir une durée déterminée et que l'heure du début de ce couvre-feu ainsi que de sa fin soit bien déterminée. Elle propose également que des mesures soient prises, notamment pour récolter ou recevoir des dénonciations ou des plaintes en rapport avec les dérapages des éléments commis à ces couvre-feux. Elle propose aussi que des mesures de suivi, notamment des patrouilles mobiles, soient instituées pour surveiller ou contrôler ce que font les éléments affectés à ces couvre-feux, pour également éviter que les checkpoints se transforment finalement en barrages pour la récolte d'argent. Justicia se met également à la disposition de l'autorité ou à la disposition de la population pour pouvoir monitorer les différents incidents et proposer des mesures de correction ou des mesures d'amélioration.
Pendant ce temps, la situation est redevenue calme ce lundi dans les hauts plateaux de Minembwe à Fizi après des altercations la veille entre le FRDC et la coalition rebelle Makanika et Alliés. La 13e brigade de réaction rapide déclare qu'elle a déjoué une attaque de la coalition rebelle dans la localité située le long de la rivière Luiko. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud, le lieutenant Elongo Kyondwa Marc, donne assez de détails dans cet extrait recueilli par Jean Kassami.
La coalition des terroristes Makanika alliés au Red Tabara, vallée du Rwanda à travers l'AFC M23, ont attaqué la position de l'armée loyaliste du 132e bataillon, 13e brigade de réaction rapide basée dans la localité dite UGA Finon, loin de la rivière Luiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi et ont déjoué celle-ci en infligeant une perte significative à ces terroristes, dont 6 ont été neutralisés et 8 blessés. Réaffirmant son engagement républicain, les forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêtes à riposter à toute tentative d'attaque de l'ennemi qui n'a qu'une seule vision, celle de semer la terreur et de déstabiliser les institutions du pays. Actuellement, la situation est calme et sous contrôle de votre armée et nous appelons la population à vaguer librement à ses occupations et à collaborer avec son armée en vue de déjouer ces plans machiavéliques des ennemis de la République.
La SBL d'Unité Humaine a organisé ce lundi à Kinshasa une rencontre sur les stratégies du lancement du projet Tofongola Miso. Entendez, ouvrons les yeux. Selon la coordonnatrice de cette structure, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre la corruption, les blanchiments des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive, ainsi que la circulation des flux financiers illicites. Elodine Tamuzinda estime que ce projet tombe à point nommé mais dans le contexte congolais où la corruption est, selon elle, institutionnalisée. On écoute ses explications au micro de Jean-Désiré Kanyama.
D'abord, pourquoi cette lutte? C'est pour notre pays que nous le faisons. C'est pour notre nation. Ne le faisons pas contre qui que ce soit, puisque nous venons en appui au gouvernement, nous venons en appui aux institutions, puisque notre pays a ratifié les engagements au niveau sous-régional, au niveau africain et au niveau mondial. C'est notre avantage si aujourd'hui nous pouvons commencer à être exemptés de tout ce qui nous est taxé. Alors il y a l'outil que nous avions présenté, c'est l'application avec laquelle nous allons travailler pour détecter les cas à tous les niveaux. Et ce n'est pas la dignité humaine qui doit les faire, c'est la société civile, c'est le gouvernement. Et donc, il fallait avoir un comité technique conjoint où nous avons les étatiques et les non-étatiques. Et donc, ensemble, nous allons commencer à recevoir les cas et savoir comment les référer. Nous devons y aller puisque cette lutte n'est pas une lutte en cavalier solitaire, mais c'est une lutte qui nécessite une mobilisation nationale.
D'après les comités techniques de ces projets, il sera réalisé dans 6 provinces de la RDC durant 12 mois dans une approche interactive d'apprentissage. Il s'agit de Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Congo Central, Okatanga et Lualaba. Notez aussi que ces projets sont exécutés en partenariat avec la coopération allemande GIZ et en collaboration avec le partenaire gouvernemental et les représentants de la société civile œuvrant dans la lutte contre la corruption. À Goma, le Parlement des jeunes du quartier Les Volcans dénonce une nouvelle tentative d'espoliation de l'espace Kamuchanga près du port public de Goma. Dans une correspondance adressée ce lundi 20 janvier 2025 au gouverneur des provinces, ces jeunes disent avoir constaté le stockage des moellons et autres matériaux de construction dans cet espace. Les présidents de cette structure estiment que la spoliation de cet espace public par des particuliers pourrait causer des sérieux préjudices aux intérêts de la population. Il plaide pour l'intervention du gouverneur militaire ad intérim Elias Kibunga Muindo au micro de Bernard Nyangi.
On a été sur les lieux pour nous enquérir de la situation une fois alertée de cette spoliation. Et le constat est qu'il y a déjà un important déchargement de pierres. Il y a aussi l'espace qui est aplani et qui montre que bientôt là, il y a des constructions qui devront commencer. Nous attendons à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, qui est le représentant du chef de l'État ici en province, qu'il tire au clair ce dossier de l'espace Kamuchanga. Nous voulons savoir qui est celui-là qui occupe cet espace, qui est d'utilité publique. C'est l'espace qui sert à la population d'accéder directement au lac, sans oublier aussi les enfants de la rue qui sont encadrés cet espace dans le travail de lavage des véhicules et des motos. C'est la raison pour laquelle nous venons auprès de l'autorité provinciale pour lui demander son implication personnelle en fait que la lumière soit éclairée sur cet espace Kamuchanga.
Dans la province du Maniema, les gouverneurs des provinces présentent l'état d'avancement des travaux des routes lancées sur toute l'étendue de cette province grâce à la taxe conventionnelle. Ce devoir de redevabilité a été fait le week-end lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par le chef de l'exécutif provincial du Maniema. Moussa Kawankubi Moïse dit se réjouir du soutien de toute la population. De leur côté, les organisations de la société civile et défense des droits de l'homme se disent flattées des essences de redevabilité de l'autorité provinciale. L'un d'eux, Crispin Muyololo Ndari Loko, en parle au micro de Florence Kizalunga.
Nous saluons l'esprit de redevabilité du gouverneur par rapport à ce qui s'exécute dans le Maniema dans le cadre de réhabilitation de routes, parce que nous voyons il a partagé les kilomètres aussi aux sociétés minières en contrepartie des carburants, n'est-ce pas, parce que les sociétés aujourd'hui sont elles qui possèdent des machines dans le cadre des travaux intenses avec PKM qui a commencé les 70 kilomètres là, qui prend Pugna vers Lubutu, et il y a d'autres société qui nous a dit qu'ils ont déjà montré leur disponibilité, et nous demandons aux autres sociétés aussi d'emboîter les pas pour que toutes les routes d'ici 6 mois soient réhabilitées. Et au-delà de cela, il nous a fait part à la fin de l'année que dans les comptes, après toutes les dépenses effectuées, nous sommes restés avec 205 000 $ avec l'extrait bancaire à l'appui. Mais après 15 jours de l'an 2025, le gouverneur vient encore de nous communiquer notre montant. Que nous sommes maintenant à 250 000 $ américains dans le cadre de Tujenge Maniema.
20 janvier 2024 vient 20 janvier 2025, un an déjà que Félix Tshisekedi a prêté serment pour son deuxième mandat à la tête du pays. En Ituri, les partis politiques Convention fédérale du Congo, CFC, membre de l'Union sacrée, a tenu un point de presse ce lundi pour commémorer cet anniversaire. Pour l'autorité morale de la CFC, James Kenda Odu, l'unité et la cohésion entre les communautés ituriennes doivent caractériser le peuple iturien en cette année 2025 pour permettre l'exécution de plusieurs projets de développement. Il ajoute que les groupes armés de l'Ituri doivent profiter de la main tendue du chef de l'État pour déposer les armes et préserver des vies humaines. James Kenda Odu est au micro de Martial Kizabiamungu.
Le message que je donne à tous nos frères ituriens, des miliciens qui ont déposé les armes, je leur dis merci pour leur acte. Et ceux qui hésitent encore d'avoir le courage, ils doivent profiter de cette opportunité de 2025 pour déposer les armes pour le retour de la paix à l'Ituri. Nous devons accompagner le chef de l'État à sa vision parce que plusieurs investisseurs ont besoin de venir investir à l'Ituri, mais ils sont bloqués. Moi, j'ai eu des investisseurs, mais ils m'ont dit qu'ils craignent de venir à l'Ituri parce qu'ils ont tué les gens ici. Maintenant, nous sommes bloqués. Il y a d'autres qui veulent venir ouvrir des grandes entreprises ici pour donner de l'emploi aux jeunes, notamment dans la construction des infrastructures routières. Aujourd'hui, nous devons profiter de cette opportunité de paix en déposant les armes pour permettre l'arrivée des investisseurs et les jeunes et les vieux, tous auront de l'emploi et il n'y aura pas la crise.
À vous bénéficier. Ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux de la commission des réflexions de l'UDPS Tshisekedi sur la constitution CRC. C'est sous la direction de l'exécutif et du secrétariat général intérimaire du parti présidentiel. 5 jours durant, près de 70 personnalités aidées par les experts vont décortiquer cette matière pour proposer des recommandations au président de la République avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire, a révélé le secrétaire général ad intérim Deo Bizibou. Le coordonnateur de ces assises a par ailleurs indiqué que les réflexions seront axées sur la pertinence et l'adéquation des l'actuelle constitution de la RDC face aux défis actuels de gouvernance et de développement. Les propos d'Anastase Nzenza Bilakila ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte marqué par des défis, mais également des opportunités uniques. La réforme de la constitution au centre de nos réflexions est une question d'une importance capitale. Elle exige de nous tous un esprit de responsabilité, de dialogue et de patriotisme. Ces journées de réflexion, organisées sous la forme d'ateliers thématiques, ont pour visée de permettre des éclairages et des échanges fructueux entre participants issus de divers horizons. Ensemble, nous aurons l'occasion d'évaluer les besoins et d'explorer les pistes de réforme susceptibles d'éclairer les décisions à venir.
Parmi les questions au centre de ses réflexions sur la Constitution, l'UDPS Tshisekedi cite la forme de l'État et la problématique de la décentralisation, les régimes politiques, la souveraineté nationale, les relations entre les institutions, la gestion de l'État, la problématique des mandats politiques et sur la nationalité. Les débats sur les changements ou la révision de la Constitution concernent tous les Congolais. Ce n'est pas l'apanage des constitutionnalistes, d'où tout citoyen congolais est appelé à réfléchir sur cette question afin d'y apporter son point de vue de manière objective pour l'avenir du pays. Propos du président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, dans une déclaration faite ce lundi à Kinshasa, Jean-Claude Katende dit avoir constaté que les scientifiques veulent s'approprier seuls le débat alors qu'ils ont prouvé qu'ils ne sont pas constants dans leur position. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
Je dois rappeler que l'article 218 de la Constitution donne aux citoyens le pouvoir de décider en dernier ressort du sort réservé à tout projet de révision des constitutions. Je dois aussi rappeler que l'expérience récente des interventions des constitutionnalistes sur la révision de la Constitution démontre que nous avons affaire à des hommes et des femmes dont les analyses ne sont pas rationnelles, ne sont pas cohérentes et encore moins indépendantes. C'est une question de société, c'est un débat de société et tous les citoyens y sont invités. Et surtout que la question elle-même concerne l'avenir, non pas des constitutionnalistes, mais l'avenir de tous les citoyens. Et comme ça nous concerne, nous avons droit au débat. Et c'est pour ça que nous avons appelé les jeunes de notre pays à s'intéresser à ces débats importants, de se documenter, de lire davantage et de pouvoir prendre des positions tout à fait éclairées.
Actualité internationale. Saïf al-Islam Kadhafi sort de son silence et réitère ses accusations contre Nicolas Sarkozy. Dans un échange exclusif avec RFI par l'intermédiaire d'une personne de confiance, Saïf al-Islam, le fils cadet du colonel Kadhafi, sort de son silence. En 2018, il avait accordé une interview au New York Times, mais pour la première fois depuis 2011, il a accepté de se confier à un média concernant l'affaire du financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il a répondu aux questions par écrit et réaffirmé à RFI sa version de cette affaire. Le procès de l'ancien président français et des 11 autres prévenus a débuté il y a 15 jour à Paris.
L'invité.
Notre invité est Arsène Mouaka. Il est député national élu de la ville de Béni, en Nord Kivu. En vacances parlementaires dans la région, il s'exprime sur la recrudescence des attaques de rebelles des EDF depuis quelques semaines. Selon lui, la réactivation des opérations militaires dans les fronts nord du territoire de Lubero justifie ces attaques dans plusieurs villages du territoire de Béni. Il propose l'élaboration des plans locaux de sécurité impliquant la population, l'armée, la police et les responsables locaux pour mettre fin au phénomène des EDF. Arsène Mouaka s'entretient avec André Kitenge.
Arsène Mouaka, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquez-vous l'activisme des rebelles des ADF ces dernières semaines dans le territoire de Béni?
Oui, c'est des choses déjà connues, puisque on sait que le front nord et le front sud de notre province ressemblent à un vase communicant. Le plus souvent, quand le sud est sérieusement menacé, quand l'armée y travaille intensement, on constate tout de suite qu'il y a une redynamisation de l'activisme des ADF dans le nord de la province. Et donc, c'est ce à quoi on assiste, puisqu'on a eu à passer les fêtes de fin d'année de manière exceptionnelle. La population a sérieusement fêté et dans la liberté, tout était bon. Mais tout juste après les fêtes, particulièrement dans la ville de Béni, on a constaté une réactivation des ADF qui, successivement, ont eu à attaquer Mikoua, Kipeayo, Kididiwe, et finalement, bien avant, c'était Loselose, bien avant les fêtes, c'était Tenambo, et finalement, dans le Lubero.
Pourquoi cet activisme crée plus d'émoi dans la population avec plusieurs morts, mais semble ne pas trouver plus d'engagement auprès du gouvernement, comme c'est le cas avec le M23?
Oui, il y a eu un moment où le gouvernement a eu à intensifier les opérations, et les fruits de ces opérations ont été très probants. Je suis dans la joie même de former l'opinion que l'armée réclame certains régiments qui étaient des régiments chéris de la population. Je parle des FRDC, ça signifie que quelque chose est en train de bouger, puisque dans les réclamations que la population me présente, eh bien, il ne manque pas de dire « nous réclamons tel colonel, nous réclamons tel régiment ». Ça a été des militaires exceptionnels, et modèles, et donc nous pensons qu'il y a eu ce qu'il y a eu, c'est l'armée. Mais bon, nous réclamons finalement et nous demandons au gouvernement de remettre les dispositifs qu'il y avait, puisque on ne peut plus permettre que les ADF égorgent impunément la population alors que la solution était là pendant plus d'une année.
Professeur Arsène Mouaka, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce regain d'activisme des ADF dans le territoire de Béni, où pourtant s'observait une accalmie, surtout après le déploiement des soldats de la coalition des armées congolaises, FRDC et ougandaises, UPDF?
C'est clair que l'attention du gouvernement a été beaucoup plus orientée vers le sud de la province, où le M23 et leur patron, l'armée rwandaise, ont eu à intensifier les opérations militaires. Et dès lors que cela a été constaté, que l'armée a commencé à avoir des victoires, c'est là qu'on va constater finalement que ici dans le nord de la province, pour ce qui est de l'ADF, Kiev, qu'il y a une réactivation et que les choses deviennent encore mauvaises, puisque au lieu de déplorer juste après les fêtes une sizaine de morts, d'abord à Losselosse, à peu près 5 personnes, quelques disparus, et finalement à Kididiwe, à Mikua, à Kipeayo, autant de personnes portées disparues. Et donc, on voudrait lancer un cri d'alarme pour demander au gouvernement de refaire les dispositifs gagnants qui y étaient avant qu'on puisse dégarnir pratiquement cette région. C'est la seule raison.
Pour vous, député élu de la ville de Beni, c'est quoi la solution à cette question pour en finir une fois pour toutes avec le phénomène des ADF?
Pour en finir avec le phénomène des ADF, il faut le pourchasser jusqu'au dernier retranchement. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Malheureusement, jusque-là, il n'y a pas un dispositif qui fait que et la police, et les services de sécurité, et la population qu'il faut organiser soient en mesure d'empêcher que les ADF reviennent impunément. Et donc, il est très nécessaire, et le président de la République a y allé dire en décembre, qu'on puisse organiser un plan de sécurité local qui implique à la fois la police nationale, qui implique l'armée, mais qui implique aussi la population qui est prête à collaborer à termes d'alerte, à termes de vigilance. Et pourquoi pas aller au-delà si cela peut être nécessaire. Et donc, il est très, très important qu'un plan nouveau soit organisé ici, dans des régions qui sont pratiquement sans ADF. Et dès qu'on chasse l'ADF, il faut organiser les autorités locales. J'ai parlé des chefs d'avenue, il faut organiser les chefs de quartier, il faut organiser les bourgmestres, les obliger à avoir un plan local de défense. On peut s'alimenter dans d'autres expériences pour essayer d'enrayer définitivement ces phénomènes d'ADEF.
Arsène Mouaka, merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa sous la supervision et coordination de Alain Rung Mouchin. Patience Ngalulambombo, c'est moi. Merci de votre attention.